Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Alors je le dis, parce que c'est la vérité, il ne faut pas travailler.
Nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, pour une nouvelle émission de Sortir du capitalisme, consacrée cette fois-ci aux Jeux Olympiques comme institution capitaliste et comme arme de mystification idéologique. Avant de consacrer plus précisément une émission au Brésil et aux Jeux Olympiques de 2016 de Rio de Janeiro, l'émission d'aujourd'hui sera consacrée à une critique des Jeux Olympiques, des Jeux Olympiques, comme institution capitaliste et comme idéologie. Une institution capitaliste parce qu'elle est une entreprise brassant des milliards et en s'enrichissant grâce à des supporters crédules, parce qu'elle est une vaste campagne de publicité et d'apologie de la marchandise et de son monde, parce qu'elle a un fonctionnement analogue au capitalisme, celle d'un système institutionnalisé de guerre de tous contre tous, de compétition perpétuelle entre athlètes et entre équipes d'athlètes ici, entre entreprises, entre États et entre individus là, parce qu'elle affiche les mêmes valeurs de hiérarchie, d'écrasement de l'adversaire, de nationalisme, de violence, et parce qu'elle organise une même recherche d'une productivité croissante en termes de productivité du travail ici et de performance et de record là. L'olympisme est une idéologie mystificatrice, une naturalisation de la guerre de tous contre tous capitaliste, une naturalisation de la prétendue supériorité masculine, avec les jeux qui séparent les hommes et les femmes, et où évidemment les jeux les plus importants sont les jeux des hommes puisqu'ils ont des performances supérieures, une occultation des inégalités de classe au profit de la catégorie abstraite de nation, une adoration des winners millionnaires, une arme de légitimation du nazisme en 1936, du massacre de 300 étudiants au Mexique 10 jours avant l'ouverture des jeux en 1968, de l'URSS en 1980, du néo-capitalisme états-unien en 1984, du régime militaro-démocratique coréen en 1988, de l'État chinois ultra-répressif en 2008, ou encore du coup d'État au Brésil en 2016. Et il aurait dû être l'exaltation du nationalisme allemand pour les Jeux prévus en 1916 et du nationalisme japonais pour les Jeux initialement prévus en 1940. L'olympisme est une mystification idéologique, puisqu'à l'instar de la religion, il est, comme disait Marx, je cite, « le soupir de la créature accablée », donc accablée par le travail, l'argent, le capitalisme, « elle est l'opium du peuple ». Mais, pour citer encore Marx, nier la religion olympique, ce bonheur illusoire du peuple, c'est exiger son bonheur réel, exiger qu'il abandonne toute illusion sur son état, c'est exiger qu'il renonce à un état qui a besoin d'illusion. La critique des Jeux Olympiques et de l'olympisme est ainsi une critique visant à une émancipation du capitalisme, et cette émancipation passe par une émancipation du sport, une sortie du sport, définie par Jean-Marie Brome, notre invité, comme système de compétition physique généralisée. Pour discuter des Jeux Olympiques comme institution capitaliste et de l'olympisme comme idéologie mystificatrice, avant d'effectuer une contre-histoire des Jeux Olympiques modernes, depuis Coubertin et même un peu avant, nous sommes avec Jean-Marie Brome, professeur émérite de sociologie de l'Université de Montpellier III, auteur notamment de Le mythe olympique, Les dessous de l'olympisme, de Pierre de Coubertin, Le Seigneur des Anneaux au fondement de l'olympisme, et de 1936, Les Jeux Olympiques à Berlin. Il est fondateur de la théorie critique du sport capitaliste il y a déjà un demi-siècle, un des animateurs principaux du boycott des JO de Moscou de 1980 et aussi ceux de Paris de 2024 et de nombreux autres boycotts d'ailleurs. Et il est actuellement membre de la revue Quel Sport après avoir été celui de Quel Corps. Donc bonjour Jean-Marie Brom.
Bonjour.
Alors est-ce que tu pourrais du coup nous résumer du coup la critique que tu as portée des Jeux Olympiques depuis plus de 40 ans et particulièrement avec ce livre moi qui me paraît central de Le Mythe Olympique qui est à mon avis peut-être l'ouvrage le plus condensé en termes de critique des Jeux Olympiques. Donc
d'ailleurs cet ouvrage quand il est paru en 1981 a fait un immense scandale pour deux raisons. La première, c'est parce que je mettais à nu les propos réactionnaires racistes, colonialistes, sexistes de Coubertin et grand admirateur de M. Hitler. Et deuxièmement, parce que je montrais effectivement l'illusion, la mystification de l'idéologie dominante à propos de l'olympisme, à savoir que l'olympisme moderne, comme le prétendait d'ailleurs Coubertin, serait la continuation de l'olympisme antique. Alors moi, la thèse que j'ai toujours défendue, c'est que l'olympisme antique avait des rapports classe, des rapports de production esclavagiste, et le capitalisme et l'olympisme moderne, c'est le capitalisme, disons, c'est le rapport de classe salarié. Voilà. Donc c'est tout à fait différent. Les soubassements idéologiques et institutionnels sont différents. Et surtout, c'était une critique de cette mythologie de l'olympisme éternel à travers les siècles, à travers les âges. Voilà. À savoir que les Grecs auraient inventé une idée transcendantale, comme disait Coubertin, qui a traversé les âges, et que Coubertin aurait restauré par un coup, disons, un coup de blues, si je puis dire, et d'amour pour la Grèce antique. Voilà. Ça, c'est, disons, ce décapage de l'idéologie dominante à propos de Coubertin et des Olympiques, ça a été effectivement un coup de tonnerre parce que les gens ne pouvaient pas admettre, d'ailleurs, ça continue aujourd'hui, hein, ne pouvaient pas admettre, disons, de désillusionner. C'est ce mythe, ce que j'ai appelé le mythe olympique. Voilà. D'ailleurs, toute critique en général de la mythologie est en général très mal vue. Voilà.
Oui, bien sûr. Et du coup, le mythe, il est. Alors, il recouvre évidemment les origines glorieuses des Jeux Olympiques de Coubertin, et ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais comment est-ce que. Quelle critique aujourd'hui on pourrait porter aux Jeux Olympiques comme institution capitaliste pour, disons, les démystifier, au moins auprès des militants anticapitalistes qui devraient porter une critique plus franche, plus affirmée des Jeux Olympiques.
Je dirais là, pour une fois, je prendrai à propos de Castro, une des rares choses intelligentes qu'il ait jamais dites. Il définissait l'olympisme comme une mafia internationale. Bon, il avait parfaitement vu que l'olympisme, c'est pas simplement une idée, un idéal, ce qu'on appelle l'idée olympique ou l'idéal olympique, c'est d'abord une institution multipolaire, multinationale, transnationale même, repose sur des partenariats tout à fait intéressés avec les sponsors, les annonceurs, les groupes capitalistes, les groupes bancaires, etc. Donc c'est une entreprise, réellement une entreprise, dont le siège est en Suisse, délocalisé, c'est une sorte de offshore général, voilà. Donc, et qui travaille d'ailleurs en très bonne intelligence avec tous les offshore de la planète. Ça, c'est le premier point. Donc, une entreprise capitaliste pure et dure. Deuxièmement, une entreprise totalement totalitaire, c'est-à-dire aucune démocratie. Coubertin définissait l'olympisme, le comité international olympique, comme un self-perpetuating oligarchy. Une oligarchie qui se perpétue elle-même par cooptation. Il n'y a pas d'élection. Il y a une cooptation. Aujourd'hui, c'est une espèce de comité central généralisé à la soviétique, ou une aristocratie de l'ancien régime, où les gens, tu retrouves des banquiers, des aristocrates, des princes, des militaires, et que sais-je encore, et de la pire espèce. Je rappelle par exemple que Samaranch, l'ancien président du comité olympique, était franquiste, photographié avec l'uniforme de franquiste, etc. Bon, bref. Donc. Et que toute une partie du comité international olympique du temps de Coubertin, je pense notamment aux Américains, Brundage, Cheryl et quelques autres, étaient pro-nazis, antisémites, pur sucre. Donc je parle même pas du comité olympique allemand de l'époque. Bon. Donc voilà, ce sont des gens peu fréquentables, et tu as toute une série de banquiers, de princes, encore une fois, par exemple, je crois bien qu'à une époque, les princes saoudiens en font toujours partie. Toutes les dictatures délèguent leurs propres délégués, des bureaucrates soviétiques, etc. Même, je crois qu'à une époque, le prince de Monaco y en faisait partie. Bref, une espèce de, d'association multinationale. Bon, bref.
Ouais, donc, du coup,
ça, c'est le deuxième point. Mais le troisième point, le plus important, c'est que peut-être c'est que le Comité international olympique a une stratégie d'implantation et de pilotage des décisions politiques à l'échelle internationale, comme l'ONU d'ailleurs, d'une certaine manière. Comme l'ONU, comme le Bureau international du travail, comme l'OMS, comme toutes ces organisations supranationales. Et le Comité international olympique utilise ses propres intérêts stratégiques pour manipuler les États. C'est-à-dire qu'en désignant tel ou tel État pour organiser les Jeux olympiques, il assoit sa propre autorité, mais il collabore avec tous les régimes, quels qu'ils soient. Alors que précisément, un des problèmes de la charte olympique, qui est supposée démocratique, c'est que l'olympisme est incompatible avec le racisme, en principe, avec la guerre. Bon. Toute une série de Jeux olympiques se sont tenus alors que les pays organisateurs étaient en guerre ou allaient la préparer. Je pense notamment à l'Allemagne nazie, évidemment, l'Union soviétique, qui a organisé en 80 les Jeux olympiques alors qu'elle venait d'envahir l'Afghanistan, la Chine en 2008 qui a organisé les Jeux olympiques alors qu'elle avait mis à feu et à sang le Tibet, et ainsi de suite. Voilà. Donc voilà, c'est ça qui me paraît le plus grave, et la pusillanimité des hommes politiques et des institutions supranationales, par exemple l'Union européenne, l'ONU, etc., refuse de voir le rôle absolument politique et de la pire espèce du Comité international olympique, qui est une mafia. Qui est une mafia qui, en plus, défend ses intérêts avec des arguments juridiques très lourds.
Ouais, donc du coup, effectivement, le CIO, c'est à la fois une entreprise privée qui vend un peu sa marque Jeux Olympiques à différents pays, et en même temps impose ses propres exigences. C'est la même chose avec l'UEFA et Exactement. Avec la FIFA, qui est effectivement une petite oligarchie qui négocie, enfin. Bon, qui négocie des pots de vin, qui est en pleine corruption, etc., etc. Et du coup, après, quelle est du coup la place plus large des Jeux Olympiques dans le capitalisme mondial, au-delà du coup de l'institution, enfin, au-delà, disons, du Comité international olympique. C'est avant tout, alors évidemment, c'est une place. Il y a une place évidemment économique très importante, puisque c'est l'occasion de faire une gigantesque campagne de propagande pour la marchandise et son monde sous couvert de cette espèce d'énorme positivité indiscutable, comme disait Debord en parlant du spectacle, mais là, énorme positivité indiscutable qu'est le sport dans notre société. Et c'est aussi un rôle, il y a ce rôle économique, effectivement, et en ça, l'institution olympique est une institution capitaliste assez importante, mais c'est aussi, peut-être même surtout, une institution idéologique.
Et politique, c'est-à-dire que toutes les décisions du Comité international olympique sont prises en fonction des rapports de force et en fonction, comment dirais-je, de la conjoncture politique du moment. Aucune attribution des Jeux olympiques n'est neutre, chaque fois. Chaque fois, le Comité international olympique a joué les puissances dominantes. Bon, voilà. Et aussi de l'expansion de son propre empire. Voilà, c'est ça le problème. Donc, donnant, pour l'instant, l'Afrique noire n'a pas encore organisé les Jeux olympiques. Ça viendra peut-être un jour. Bon. Comment dirais-je, la conquête, voilà. La conquête de l'espace marchand. Par la marchandise. Et le premier objectif stratégique, mais le deuxième objectif stratégique, c'est assurer sa propre domination, qu'il n'y ait pas de contestation possible. D'où d'ailleurs la collaboration organique du Comité international olympique avec tous les régimes totalitaires, répressifs, militaro-policiers, les dictatures bananières et j'en passe, etc. Voilà. C'est ça qui est flagrant. Et, d'autant plus que le Comité international olympique, au nom de l'idéal olympique, au nom de la supposée paix olympique, ou trêve olympique, au nom de la supposée amitié entre les peuples, accepte chaque fois, effectivement, des régimes qui massacrent les peuples, qui détruisent, disons, l'environnement, qui maintiennent, disons, l'esclavagisme généralisé, ou la dictature généralisée. Voilà, donc c'est une... Et la force de l'olympisme, c'est que justement, n'apparaît pas comme étant cette puissance-là. Donc c'est soi-disant une neutralité comme l'ONU. Chacun sait que l'ONU, effectivement, ce machin, comme disait Charles de Gaulle, c'est un organe d'influence, d'emprise et de souveraineté supranationale. Bon. Coubertin, d'ailleurs, disait que il fallait maintenir l'indépendance du Comité Central Olympique précisément pour éviter la manipulation par les États. Mais en fait, c'est lui, c'est le Comité Central Olympique qui manipule les États. Et Coubertin avait une phrase d'ailleurs, qui était assez intéressante, disait « L'olympisme est une grande machinerie silencieuse que certains essayent d'entraver en mettant des grains de sable dedans. » Voilà. Ceux qui essaient d'entraver cette machinerie silencieuse sont tous les boycotts, bien sûr. Des gens qui se révoltent contre, effectivement, le diktat olympique. Moi, je trouve que c'est aujourd'hui, et on va le voir, par exemple, si d'aventure, si par malheur, la France était retenue en 2024, le Comité international olympique, comme l'UEFA d'ailleurs, d'une certaine manière aussi, dicte ses lois, impose, disons, des normes drastiques, et finalement, spolie, pille la population, pille les richesses locales. Hein. Et une fois que c'est fait, on laisse l'ardoise. Hein. Voilà, c'est...
Oui, c'est ça, c'est un coût gigantesque qui repose sur toute
la population. Et déficitaire, chaque fois.
Déficitaire. Et qui en même temps, où effectivement les profits sont privatisés au profit de quelques multinationales et du CIO, voilà. Et où l'ardoise est payée par tout le monde, même par la population du.
C'est une séance de publicité gratuite, par exemple pour Coca-Cola, pour Adidas, pour Volkswagen, pour tout ce que tu veux. Donc voilà.
Oui, bien sûr. Et du coup, là, ça nous rapproche quand même de c'est une puissance politique qui apparaît comme neutre politiquement. Et qui aussi fait apparaître tout le monde auquel elle se rattache, donc le capitalisme, comme étant quelque chose de naturel. J'ai parlé dans l'introduction.
Et d'éternel.
Et d'éternel aussi. Voilà, puisque effectivement, il y a la référence à la Grèce antique. Mmh. Et du coup, l'olympisme porte un certain nombre de naturalisations. Il naturalise la compétition généralisée dans le capitalisme. Il naturalise derrière la hiérarchie et l'élimination des plus faibles aussi qui se fait sur le marché capitaliste. Il naturalise la supériorité masculine. Puisque regardez objectivement, les performances masculines sont meilleures que les performances féminines, et ce sont des performances qui sont objectivées, donc on peut pas réfuter, etc., etc. Il occulte les inégalités de classe. C'est toujours les Jeux Olympiques sont toujours le moyen de mobiliser toute la population. Par-delà les différences de classe, de sexe, etc., etc., et même d'opinion politique, derrière un régime. Donc, par exemple, on verra tout à l'heure l'exemple de l'Allemagne nazie qui est un peu le concentré de ce que c'est que l'olympisme. Et du coup, qu'est-ce que tu rajouterais à ce tableau, voilà, de l'olympisme comme idéologie mystificatrice?
Il faut quand même savoir que l'olympisme a longtemps été dominé par l'idéologie coubertinienne. Hein, Coubertin ne voulait pas d'Olympiade femelle, je cite. Il savait très bien que le professionnalisme était inévitable, bon, mais il voulait qu'il y ait de la loyauté dans la concurrence. Donc, d'où le serment des athlètes, qui était une pure mascarade. Bon. En 1904, les États-Unis organisent ce qu'on appelait les Anthropological Day, les Jeux anthropologiques. Où tu avais les Noirs, les Philippins, les Indiens, les Sioux, les Patagons, les Pygmées qui ont été mis en démonstration. Et Coubertin, ça le faisait rire. Je trouvais ça, effectivement, il disait que les Américains sont des grands enfants. Voilà. Mais des grands enfants qui font jouer d'autres grands enfants. Bon. Donc la question du racisme a été longtemps, prévalente dans le mouvement olympique, jusqu'à ce qu'effectivement l'Afrique du Sud, disons, ait été sanctionnée et que globalement, le racisme est global, je dis globalement, combattu par l'idéologie olympique. Mais par contre, toute l'anthropologie, ou l'anthropométrie même, olympique et sportive en général, est tout à fait réactionnaire. D'un côté les femmes, d'un côté les hommes. D'un côté les valides, d'un autre côté les invalides. Les jeunes, et les vieux, et ainsi de suite. Les noirs qui ne savent pas nager, les blancs qui courent moins vite que les noirs, et tutti quanti. Autrement dit, c'est un partage anthropométrique de l'humanité. Donc, c'est quand même... Je trouve ça extraordinaire. C'est finalement c'est une forme, disons, de vision biologiste ou néo-darwinienne du monde. D'ailleurs, le délire a été jusqu'à imaginer, notamment en 72 par Paris Match et quelques autres revues du même acabit, des jeux anthropologiques de la zoosphère. C'est-à-dire qu'on a comparé les performances humaines aux performances animales. Un homme court à 36 km à l'heure, le plus rapide. Un guépard, c'est 100 km à l'heure. Un cheval, c'est 70 km à l'heure. Une puce saute 600 fois sa taille ou 300 fois sa taille. Un puma saute 6 mètres. Un homme saute le record du monde en son hauteur, c'est un cubain. Sotomayor, 2,45 m. Donc, on montre à chaque fois, effectivement, quelles sont les limites de tel ou tel ou tel. Comme si on voulait faire, imaginons faire des Jeux Olympiques, des mathématiques, ce serait absolument grotesque. Donc, mais par contre, insister sur l'aspect physique, sur l'aspect biologique, et donc, d'une certaine manière, sur l'inégalité fondamentale, hein, des êtres humains, et donc leur division en espèces, en genre, en sexe, etc. C'est ça qui, pour moi, est le côté le plus réactionnaire de l'Olympisme. Alors évidemment, l'idéologie officielle dit non, tous les hommes sont frères, il faut fraterniser, c'est la paix, etc. C'est faux. C'est une pure dénégation, puisque en même temps, après chaque Olympiade, on fait le décompte objectif des médailles, le classement des médailles. Et donc le classement des médailles est supposé, d'ailleurs c'était ça l'idéologie nazie, montrer la supériorité physique d'une race, entre guillemets, sur une autre. Ou d'un peuple sur un autre. Voilà. Donc ça ne peut pas ne pas, disons, engendrer une forme de ce que Coubertin a appelé d'ailleurs la paix armée. Hein, une espèce de concurrence généralisée entre les nations. Et d'une certaine manière, l'Olympisme, c'est la continuation de la guerre par d'autres moyens.
Ouais, c'est... Et du coup, on peut voir, effectivement, tu parlais tout. Effectivement, finalement, cette anthropométrie totalitaire, c'est le fait de réduire finalement tout à des mesures. C'est exactement ce qu'on appelle, après Marx, Lukács et tout ça, la réification. C'est-à-dire que finalement, on réduit des êtres humains ou des animaux, etc., à une mesure, à une quantité de secondes, à une quantité de...
De kilomètres,
de vitesse, etc., de vitesse moyenne, de kilomètres heure, etc. Et là-dessus, et cette réification, elle produit des classements, un petit peu comme sur le marché du travail, on est objectivé par rapport à une rentabilité ou une productivité du travail, et cette réification, elle conduit à l'élimination. On connaît le fameux nageur guinéen qui manifestement était comme le paysan africain, éliminé parce qu'il n'avait pas une productivité suffisante. On classe, voilà, on fait un classement comme sur le marché. Il y a des entreprises plus compétitives que d'autres, et évidemment apologie des vainqueurs et mépris des vaincus réifiés à des simples, à des moins bonnes performances. Quoi.
Alors, un sociologue américain qui s'appelait Pitirim Sorokin appelait ça la cantophrénie, c'est-à-dire la réduction de toute qualité à des mesures. Si tu regardes, par exemple, en ce moment, les matchs de football, à la télé, on te demande, tout est mesuré, tout est classé, tout est chronométré. Par exemple, le nombre de passes réussies, le nombre de tirs réussis, le nombre de kilomètres parcourus, et ainsi de suite. Donc, l'individu X ou Y, tel ou tel joueur, devient une fiche chronométrée. Une fiche, voilà. Et d'ailleurs, c'est une tendance générale, ça a à voir avec l'informatique, avec ce que tu disais tout à l'heure, la réification, c'est-à-dire la chosification des êtres humains. Bon. Et l'Olympisme participe de ça, le sport en général. Je trouve ça très très dommage, parce que précisément, c'est très exactement ce qui est le fond même du fondement capitaliste aujourd'hui. Non. La perte de substance humaine, la dévitalisation de la vie, hein, au profit d'une abstraction marchande. Comme dit Marx, le travail est mort, qui supplante le travail vivant. Donc c'est effectivement, la mort, c'est pas simplement la mort qu'on connaît dans les cimetières, comme ici en face. Hein. Oui. La mort, c'est aussi effectivement l'absence de qualité proprement humaine, c'est-à-dire purement le chiffre. Un chiffre, c'est mort.
Voilà. C'est ça. Oui, effectivement, c'est la réduction ad quantum, une réduction à une, on réduit tout à une quantité qui est à la fois le mécanisme du sport, le mécanisme produit par l'institution sportive, et le mécanisme produit par le capitalisme, où tout est réduit à une quantité de valeurs.
Les valeurs boursières, par exemple, en ce moment.
Voilà, la valeur boursière. Un certain niveau de rentabilité qui fait qu'en dessous de ce niveau de rentabilité, on est éliminé de l'entreprise et du marché du travail, etc., etc. Et c'est vrai que c'est là où on voit l'analogie, l'isomorphisme entre le sport et le capitalisme.
Ouais, tout à fait.
Et du coup, on comprend que les Jeux Olympiques occupent une place centrale dans l'idéologie capitaliste, puisque précisément les Jeux Olympiques apparaissent comme neutres, comme bons, ils se parent des valeurs de l'humanisme, etc., etc. Et ce faisant, ils peuvent donc, puisqu'ils ont les mêmes structures que celles du capitalisme, la même vision de l'homme, etc., etc., ils peuvent légitimer, c'est une puissance de légitimation du capitalisme dans sa totalité.
J'ajouterai encore une dimension actuelle, c'est dans le cadre, disons, de ce qu'on pourrait appeler une démocratie limitée, qui est en train de se produire sur toute la surface des anciennes démocraties ou oligarchies libérales, comme disait Cassiodis. Aujourd'hui, on voit très bien, effectivement, la réduction des droits syndicaux, la tendance à limiter les libertés démocratiques au nom de l'efficacité, au nom de la sécurité, au nom de tout ce que tu veux. Bon. Et justement, l'olympisme, le sport en général, est une institution d'ordre, de mise en ordre, de mise en place, d'alignement des populations. Effectivement, c'est, disons, indiscutable. Donc, il n'y a pas à discuter. Et justement, c'est ça qui est toujours en train de prévaloir dans les oligarchies libérales. Circuler, rien à voir, ne discutez pas. Une fois que c'est fait, c'est fait. Bon. Et je trouve que c'est une menace aussi pour la démocratie, parce que la démocratie, précisément, n'est pas du chiffre. La démocratie, c'est de la qualité. C'est-à-dire au sens de la qualification, disons, de la nuance. C'est la complexité des choses. Alors le sport réduit la complexité. Le sport, c'est simple. Tu es vainqueur ou vaincu. Mmh. C'est binaire, tout à fait binaire. D'ailleurs, le départage des champions.
Comme la politique étatique, voilà, ou comme le capitalisme.
Voilà. Le départage des champions, ça se fait à une seconde près, à un dixième de seconde près. Et il n'y a pas à discuter, c'est comme ça. Bon, je trouve ça d'une extrême violence.
Comme le référendum Notre-Dame-des-Landes aussi.
Voilà.
Bon. On multiplie, effectivement, là on voit qu'il y a une espèce d'homologie entre le sport et le capitalisme et l'État, c'est-à-dire la réduction de tout à des quantités, un système hiérarchisé, une énorme bureaucratie, etc., etc. Et du coup, on va faire une petite pause musicale avant de revenir sur la genèse de l'olympisme, la différence d'abord avec les Jeux Olympiques anciens, revenir un petit peu plus profondément là-dessus, voir comment est-ce que, avec la naissance, l'émergence du capitalisme en Angleterre au XVIIe siècle et puis dans le reste de l'Europe au XIXe siècle, l'olympisme va être remis tel quel sous sa forme antique, mais bien restructuré d'une manière complètement différente, un petit peu comme le football et la soule, qui n'avaient pas grand chose à voir. C'est effectivement une restructuration, un changement de forme capitaliste. Et puis on reviendra sur le cas Coubertin, qui est quand même un cas très important, puisque c'est le pape de l'olympisme. Et puis on reviendra sur un certain nombre de Jeux Olympiques historiques, et notamment celui auquel tu as consacré un livre, les JO de 1936. Voilà.
L'appel de l'épée conservatrice, et il est l'heure, je veux des preuves de ton sens du sacrifice. Allez, lève-toi, bats-toi, tue pour moi, fais couler le sang impur sans demander pourquoi. Viens, suis-moi, je suis la plus belle cause pour mourir. Au nom de toutes tes bouches à nourrir, contiens ta douleur, fais ton devoir avec passion. Question d'honneur pour la grandeur de la nation. Les traîtres et les ordures, moi je leur plante mon drapeau, et à grands coups de clairon je les torture, je les Guantanamo. Ne t'avise surtout pas de renier ton pays, je te veux docile, écoute et obéis. tiens, garder ma place, donc je la défends. Testostérone à bloc, je donne dans la gonflette. Ni mouviette, ni tantouse, j'ai l'esprit de compète. L'esprit de conquête, un fait pour les combats. Chauvin, vu de moi, je revendique la grosse tête. Je me complais que dans l'excès, la démesure, homme d'exception. Je viens marquer l'histoire de ma signature. Je kiffe les bains de foule qui donnent l'assise à mon statut. Ces grandes messes populaires qui t'en mettent plein la vue. Je prends mon pied dans les tribunes de tous les stades. Ces jours de fête, étendard levé, je parade. La foule m'acclame et ses gosses sous mon emprise. Et moi je rigole quand ça déborde, quand elle se radicalise. Faire savoir au monde entier. En temps de crise, je gonfle mes rangs dans la misère. Je divise et encourage le repli communautaire. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Je croque les faibles, je m'étends, je les repousse. Je fonce sur tous les fronts, refuse de ronger mon frein. Je sais qu'au bout du compte, il ne peut y rester qu'un. Fier de mes frontières, je choisis mes étrangers. Si je pouvais les autres, je voudrais tous les étrangler. Les mettre au pas, leur montrer qui c'est le patron. Piller leurs richesses avant de brûler leur maison. Violer leurs femmes et purifier enfin leur gêne. J'aime entendre leurs cris pour apaiser ma haine. Je voudrais les voir se prosterner devant mon Dieu. Je leur imposerai mes valeurs, fusil chargé entre les yeux. J'ai tout un empire, je suis la race élue, j'ai foi en l'avenir. J'ai vu les plus grands chefs s'asseoir à ma table. Je les oriente, les conseils me sont tous redevables. À mon actif, une pléthore de coups d'éclat, de somptueux complots, de messes basses, de coups d'état. J'ai l'art et la manière de servir leur noir dessein, de raviver ce feu, même s'il te paraît éteint. Je suis le silence des pantoufles avant le bruit des bottes. Souveraineté légitime, j'ai l'appui du bulletin de vote. Et ouais, petit, j'ai la main mise au jeu des urnes, simple formalité que je règle en réunion nocturne. J'ai la force de déplacer les montagnes, les craintes. Avec moi, tu marqueras même la lune de ton empreinte. Abreuve-toi de mon sillon, ensemble tout devient possible. Sous mon couvert, la pire ignominie paraît crédible. J'érige des monuments à la gloire de mes martyrs et distribue de 3 médailles aux soldats qui ont pu revenir. Éternellement reconnaissant, une salve à l'enterrement, je lâche des fleurs à leur mémoire une fois par an. Je suis la propagande officielle, ma face sur tous les murs, j'avance béni du ciel. Je diabolise l'ennemi selon mes intérêts, joue sur tes peurs pour que la hache soit déterrée. Je sais très bien comment te retourner le cerveau. Je te travaille au corps jusqu'à trouver ta faille. Vulgaire char à canon, je ne donne pas cher de ta peau. Je suis ce vent qui rend fou dans les champs de bataille. Le ton, les mots qu'il faut, le chant parfait. Je fanfarole, galvanise les troupes et mets le paquet. Je suis la voix du patriote aux yeux de Brest. Tu connais bien une de mes filles, on la surnomme la Marseillaise.
Et donc nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, autour d'une émission avec Jean-Marie Brome sur les Jeux Olympiques et l'olympisme. On a consacré la première partie de cette émission aux Jeux Olympiques comme institution capitaliste et comme mystification idéologique. Et on va maintenant revenir, parce que c'est important pour prendre du recul sur cette institution, sur la longue histoire de l'olympisme. Alors, avant que j'ébauche assez rapidement le lien entre l'émergence du capitalisme et la réémergence, mais sous une forme complètement différente, de l'olympisme, est-ce que tu pourrais du coup nous développer ce que tu as commencé à dire un petit peu en première partie d'émission, et ce que tu développes plus largement dans Le mythe olympique, paru en 1981 aux éditions Christian Bourgeois, entre la différence fondamentale entre les JO anciens et les JO modernes?
La différence majeure, j'ai déjà dit, c'est le soubassement structurel social. C'est-à-dire que les Jeux Olympiques antiques, grecs, étaient fondés sur une société esclavagiste. Voilà. Sur des hommes libres et des hommes esclaves. Bon. Et même si les Jeux Olympiques antiques ont énormément évolué jusqu'à leur dissolution, leur dégénérescence d'une certaine manière, c'était effectivement une société, des Jeux aristocratiques. Bon. Ça, c'est le premier point. D'autre part, c'était des jeux qui étaient dédiés à des divinités. Les jeux pythiques, les jeux olympiques, c'était des jeux qui étaient des jeux cultuels. Donc, d'une certaine manière, des jeux religieux, sacralisés. Toute une série d'hypothèses ont été avancées sur l'origine, effectivement. Bon. D'ailleurs, Coubertin a essayé de rétablir ce côté religieux. Le néo-olympisme de Coubertin, c'est la religion athlétique.
Oui, les cathédrales.
Non, mais la religion athlétique, c'est l'athlète qui se prépare, effectivement, comme une cesse de chevalier servant. Ouais. Donc Coubertin avait des idées assez farfelues, d'une certaine manière, sur ce que c'est effectivement la sacralité, la chevalerie, bon...
Qui va réactiver d'ailleurs au moment de la Première Guerre mondiale, et aussi en disant que le sport est une préparation au sacrifice pour la patrie.
Voilà,
et tout ça,
voilà. Donc ça existait aussi chez les Grecs. Bon, c'est en plus des États, des cités qui s'affrontaient. Bon, bien plus que des individus. Mais surtout les Jeux antiques ignoraient ce qui fait la différence avec le sport capitaliste et les Olympiques modernes, c'est la mesure. Oui. La compétition n'était pas une compétition match against time, comme disent les Anglais, contre le temps. Les mesures étaient farfelues. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne sait pas exactement quelles étaient les performances. Ce n'était pas chronométré, ni mesuré. Ce qui est important, c'est d'être vainqueur. On courait d'être vainqueur, voilà. Et donc, il n'y avait pas la notion de record. C'est la grande différence aujourd'hui entre le sport moderne et le sport antique, c'est la notion de record, la notion d'amélioration et de temporalité qui peut être à l'infini augmentée.
Ça, oui, la recherche de la productivité la continuellement augmentée.
La performance, voilà.
Oui, voilà, la recherche de la performance. Et là, encore une fois, on voit le lien entre la différence entre la société antique et la société capitaliste, puisque la société antique, effectivement, même si c'était une société de classe, une société hiérarchisée, n'était pas une société de compétition généralisée entre des entreprises qui doivent, de par les contraintes du marché, sans cesse améliorer leur productivité et tout ça. Et du coup, là, on voit effectivement la différence entre guillemets le sport antique, on devrait plutôt parler des
on a parlé d'agonistique, agon, hein, voilà, l'agonistique. Moi, je pense à ce juste, effectivement. Ouais. Les Grecs ont un sens effectivement de la lutte, de l'agonistique, pas la compétition, parce que la compétition pour moi c'est tout à fait autre chose.
Ouais. Hein.
Ce qui était important, c'était de gagner. Bon. Bon. Et donc, ils s'étaient honorés comme tels. Des vainqueurs étaient célébrés parce qu'ils avaient gagné tel combat de Pancrace, par exemple, qui est une forme de boxe, parce qu'ils avaient gagné le tour du stade, etc. Par contre, et d'autre part, les pratiques physiques grecques étaient tout à fait différentes de celles d'aujourd'hui. Bon. Aujourd'hui, effectivement, les Grecs ignoraient le saut à la perche, par exemple. Ignoraient le lancer du marteau. Il y avait le disque, par contre, chez les Grecs. Il y avait le javelot aussi. Bon. Mais donc, le sport moderne a inséré toute une série de disciplines nouvelles, notamment les Jeux Olympiques, par exemple, d'hiver, qui n'existaient pas, le 3000 mètres steeple, par exemple, des choses comme ça. Donc, d'une certaine manière, le sport moderne, bon, le capitaliste, comme tu dis très bien, c'est une invention à l'infini de nouvelles techniques, de nouvelles technologies corporelles, qui toutes visent à explorer toutes les capacités possibles de performance du corps humain. Mmh. Bon. Chez les Grecs, par contre, le corps humain avait sa valeur en soi. Ce n'était pas le problème de la performance qui était posé. C'est le problème, ce qu'ils appelaient la kalogathia, la triple perfection, le beau, le bien et le juste. Donc, c'est ce qui était important, c'était la beauté chez les Grecs. Hein. D'où d'ailleurs toute la statuaire grecque.
Et bon. Les luttes nues, entre
hommes nus
et tout ça.
Côté. Bon, ça, c'est un autre problème. Ça, dans le gymnase, c'était le problème de l'homosexualité grecque. Bon. Mmh. Entre les anciens et les effets. Bon. Mais donc, cette différence.
Enfin, beaucoup de l'homosexualité un peu forcée, quoi.
Oui.
Plus ça, ouais. C'est plus ça le problème, ouais. Des problèmes de viol, non.
Oui, tout à fait. Bon. Donc là aussi, on a mythifié le sport grec, parce que le sport grec était très violent aussi. La société grecque était très violente. Bon. Et donc, l'idée de trêve olympique était effectivement consubstantielle des Jeux olympiques antiques. C'est-à-dire, les cités en guerre, en confrontation, dépose les armes pour aller se combattre pacifiquement, entre guillemets, sur le stade. Bon.
C'est là où on voit quand même le fait que même dans sa version antique, disons, les compétitions physiques sont déjà des formes de guerre continuées par d'autres moyens.
Et de préparation à la guerre, surtout.
Ouais, et de préparation à la guerre. Et ça, on en reparlera avec Coubertin qui insiste beaucoup là-dessus. Et donc du coup, si on fait un bond en avant dans l'histoire, on se retrouve tu l'expliques dans différents ouvrages. Patrick Vasseur pour le football en parle aussi. Et dans Sociologie politique du sport, je pense que c'est pour l'instant l'ouvrage qui est le plus approfondi là-dessus, sur le fait que l'émergence du capitalisme en Angleterre, même s'il y a beaucoup de débats évidemment sur l'émergence du capitalisme, mais disons que globalement, on peut être à peu près d'accord sur le fait qu'au XVIIe siècle, la société qui ressemble le plus au capitalisme moderne, contemporain, c'est la société anglaise.
Oui,
voilà. Et donc du coup, dans cette société anglaise, où il y a déjà eu des enclosures massives, une expropriation des paysans, la triade, le propriétaire terrien, le fermier capitaliste, les salariés agricoles... un marché très important à Londres, un marché capitaliste. En même temps, toute une dynamique où les fermiers capitalistes en concurrence les uns avec les autres cherchent à améliorer perpétuellement la productivité du travail, à côté de cette dynamique capitaliste qui est inédite dans l'histoire des sociétés humaines, cette espèce de guerre généralisée entre fermiers et capitalistes pour améliorer la productivité sans cesse du travail, pour rester compétitif, etc., elle va s'accompagner de nouvelles pratiques, de nouvelles compétitions physiques. Est-ce que tu pourrais parler rapidement de ces nouvelles compétitions physiques en Angleterre au XVIIe siècle?
Ce qui caractérise la naissance du sport moderne capitaliste en Angleterre, c'est trois choses. D'une part, l'institution. C'est-à-dire qu'auparavant, les pratiques pouvaient être libres, il y a toujours eu des jeux, il y a toujours eu des combats de boxe, il y a toujours des jeux de balle, que sais-je, des courses. Mais là, ce qui est important, c'est que ça se passe sous l'égide d'une institution qui organise des compétitions. Donc, pour moi, le critère du sport, c'est la compétition organisée par l'institution. C'est le premier point. Deuxièmement, c'est le spectacle. Donc, les Anglais ont inventé le spectacle. Par exemple, des courses, les courses de chevaux, des combats de boxe, etc. Bon. Et ensuite, ultérieurement, le rugby, le football, la rame, les célèbres courses, disons, entre Oxford et Cambridge, qui sont des courses organisées et spectaculaires.
Bon. Et du coup, c'est des entreprises aussi.
Et donc, du coup, des entreprises, ça va de soi. Et le troisième caractère, disons, qui est fondamental, c'est précisément le match against time, c'est-à-dire la lutte contre le temps, et les paris sportifs. C'est-à-dire la naissance du sport, et on parie sur des performances entre ce qu'on appelle des coureurs, hein, où des coureurs et des chevaux, on a fait courir, concourir avec des handicaps, des coureurs à pied et des chevaux pour savoir qui va gagner. Donc on parie. Donc voilà, tu vois, cette association entre l'institution, la compétition spectaculaire, le pari et la lutte contre pour l'amélioration des performances, c'est ça la naissance du sport moderne en Angleterre. Évidemment, ça correspondait tout à fait, comme tu l'as dit très bien, à l'esprit, à l'éthos du capitalisme. Bon, enfin, la productivité, la performance, la rationalisation des techniques. Parce que, évidemment, pour gagner, on s'entraîne, on se prépare, et donc la division du travail, la spécialisation. Bon, même si à l'époque, la division du travail spécialisé n'était pas aussi importante qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'était pas possible. Le dernier qui a été vraiment en athlète complet, c'est Jesse Owens. Il fait le saut en longueur, du sprint, etc. Les différentes formes de sprint. Aujourd'hui, tu es sprinteur, tu ne fais pas en même temps le saut à la perche. Même si là aussi, il existe des disciplines qu'on appelle le décathlon, où tu fais 10 disciplines. Bon. Mais de plus en plus, le sport, c'est la spécialisation, l'ultra-spécialisation.
Mais du coup, avec le décathlon, tu te spécialises juste sur 10 disciplines différentes.
Voilà. Ça. Par exemple, en foot, par exemple, tu es derrière ou devant. Bon, c'est très bien à chaque fois. Le débat aujourd'hui, c'est qui est sa place, qui doit être à gauche, qui doit être à droite. Donc, c'est là aussi, c'est une mise en ordre des performances. C'est un ordre social, un ordre symbolique qui correspond évidemment à tout l'ensemble de l'ordre. Il y a les dirigeants et les exécutants. Et on ne remet pas en cause les ordres. Voilà. C'est la grande force, disons, du capitalisme anglais. Et ensuite, ça a été exporté. Parce que la force du capitalisme anglais, c'est d'avoir exporté toutes ces pratiques-là. Le football, le rugby, le cricket, la course, l'athlétisme, aux quatre coins de la planète. Et dans le cadre de son propre impérialisme, de l'Empire britannique. Voilà. Donc, il faut toujours lier le sport, non seulement au capitalisme, mais à l'impérialisme. Aux différentes formes d'impérialisme. L'impérialisme français, l'impérialisme allemand, l'impérialisme britannique. Bon.
Oui, bien sûr. Et du coup.
Ultérieurement, l'impérialisme soviétique.
Ouais. Et d'ailleurs, cette exportation, elle peut se faire évidemment par la colonisation, mais un petit peu comme le capitalisme, elle peut aussi se faire parce que, à partir de la fin du 18e siècle, donc dans les années 1790 en France, par exemple, l'Angleterre étant la société capitaliste qui a un capitalisme agricole très productif et qui a commencé son industrialisation, elle bénéficie d'un avantage à la fois commercial et militaire sur les autres puissances qui, elles, sont encore, des sociétés d'ancien régime à divers niveaux. Et du coup, il va y avoir évidemment des effets d'imitation sur le plan du capitalisme. Donc la Révolution française, c'est la libéralisation du commerce des grains, l'abolition des corporations, la création d'une espèce de marché du travail commun en France, l'unification du droit, etc., etc. Et c'est là qu'on voit apparaître dans les années 1796-1798 le directoire, la République bourgeoise du directoire, les premières Olympiades. Alors c'est pas les Jeux Olympiques évidemment, mais les premières Olympiades françaises, où là on remarque encore une fois, l'innovation dont tu as parlé, sauf que là, elle est encore plus précise, évidemment, c'est le début du chronométrage, disons, une mesure qui est de plus en plus précise. Et 1795, c'est l'invention du. Enfin, c'est la formalisation d'un système de mesure, mètres, secondes, etc., heures, etc., etc., par les institutions scientifiques françaises. Et donc du coup, disons, le nouveau temps du capitalisme, qui est le temps mathématique, le temps des heures de travail, le temps de la productivité, etc., etc., va se retrouver aussi dans les compétitions physiques. Et ça va être un précédent qui va être... ça va durer 2 ans, ces Olympiades de 1796 à 1798. Et nous voilà arrivés sur le 19e siècle. Avant d'arriver à Pierre de Coubertin, puisque là on a évidemment montré que les Jeux Olympiques font partie, sont une partie très importante, mais ne sont pas toute l'histoire du sport capitaliste, et du coup arriver sur ce deuxième temps très important de l'émergence du sport moderne, qui est en fait le passage au capitalisme industriel en Angleterre et la naissance du football, du rugby, avec une division du travail, enfin dans l'usine, une division du travail marchandise, du salariat beaucoup plus poussée, avec des spécialisations beaucoup plus fortes qu'avec le capitalisme artisanal, et qu'on va retrouver dans les sports, le rugby, le football, avec des plus de spécialisation, avec évidemment un manager qui est contremaître ou le directeur de l'usine dans l'entreprise et le coach sur le terrain de football ou le terrain de rugby, avec l'arbitre qui est un peu l'équivalent du règlement d'usine, c'est-à-dire il faut pas faire ça, parce que c'était aussi Patrick Vasseur l'explique, et toi aussi tu l'expliques dans Sociologie politique du sport, le fait que les enfants de la bourgeoisie, les bourgeois ne voulaient pas que leurs enfants se fassent massacrer sur le terrain, donc du coup il fallait mettre un arbitre, poser des règles, un petit peu comme dans la guerre moderne, des conventions de Genève quoi, et du coup on arrive à une phase d'expansion, d'institutionnalisation du sport qui va se répandre à travers le monde, création des fédérations, deuxième moitié du 19e siècle, le football qui arrive en France, le rugby. Est-ce que tu aurais du coup un complément avant qu'on passe à...
Mais ce qui est intéressant, c'est de voir le côté carrément synchrone de l'institutionnalisation. Les différentes fédérations sportives, le foot, l'athlétisme, le tennis, etc., avec à quelques années près. Ça se passe, disons, entre 1880 et 1900, première vague. Et après la Deuxième Guerre mondiale, même chose. C'est-à-dire que c'est vraiment le mouvement d'institutionnalisation, c'est un mouvement d'expansion mondiale. Bon. Et c'est ça qui crée la force de l'institution sportive, parce que c'est aussi le refus des spécificités nationales. Le sport est supposé être géré de la même manière par les règlements en Allemagne, en Corée du Nord, en Corée du Sud, en Afrique, etc. Le football, les règles du football sont les mêmes partout.
Bon. Comme les règles du marché.
Encore que les règles du marché, il n'y en a pas. Ouais, bon. Mais là, c'est institutionnalisé, c'est contrôlé. Bon. Et d'ailleurs, ça a à voir effectivement avec ce que tu disais tout à l'heure sur la mathématisation. C'est-à-dire qu'on voit aussi l'apparition, non seulement du chronométrage, mais des statistiques. C'est très important pour contrôler effectivement les flux, les sorties, les gains de productivité, etc. Et c'est exactement ce qui se passe dans le sport. Donc on ne peut pas parler de sport, et c'est le grand débat que j'ai aujourd'hui avec toute une série d'idéologues, tu ne peux pas parler de sport en général. Le sport, c'est toujours le sport de compétition institutionnalisé. C'est pas la même chose de faire du foot entre copains sur un terrain vague, par exemple, ou sur une plage, et faire du foot dans un club. C'est tout à fait différent. Bon, parce qu'à ce moment-là, tu as la logique du club, la logique compétitive. Bon. Voilà. Et les Jeux Olympiques, précisément, a été l'institution supranationale qui a chapeauté l'ensemble des disciplines. Bon. Et l'idée de Coubertin, c'était aussi ça, c'est faire en sorte que l'olympisme, c'est tous les sports pour tous. C'est ça, aujourd'hui, c'est le mot d'ordre. Ouais. Et donc, ce serait effectivement une espèce de religion mondialisée, où l'humanité tout entière irait se confronter comme ça pour savoir qui est le meilleur. Voilà. Et c'est une idéologie très très forte. Parce qu'on peut imaginer aussi dans la science-fiction, le jour où les extraterrestres débarquent sur Terre, est-ce qu'on organiserait des jeux intergalactiques ? Parce que l'idée, c'est ça. Faire la compétition généralisée. Et d'ailleurs, le mouvement olympique, ça a été l'intégration progressive de tous les peuples, de toutes les nationalités. Bon, au départ, c'était organisé, réservé à quelques grandes nations, et aujourd'hui, presque tous les pays du monde participent aux Jeux olympiques. Donc c'est ça, l'idée, effectivement, une seule planète. Ouais, une seule planète olympique.
Comme l'intégration au capitalisme mondial,
un seul capitalisme.
C'est ça. Et du coup, on va arriver maintenant au fondateur des Jeux Olympiques modernes, Coubertin, qui va organiser les premiers Jeux Olympiques de 1896 en Grèce, même s'il voulait les organiser à Paris, évidemment, mais il n'a pas réussi.
Mais Paris a organisé en 1900. Hein,
ouais. Mais Paris les a organisés en 1900, donc ça a été que reporté. Et du coup, pour se donner une petite idée du personnage, je vais vous lire quelques citations qui sont contenues dans l'ouvrage de Jean-Marie Brome, Le mythe olympique, qui est l'ouvrage avec sociologie politique du sport, l'ouvrage un peu fondamental sur ce que sont les Jeux olympiques. Alors je cite. Le sport doit être pratiqué avec ardeur, je dirais même avec violence. Le sport, ce n'est pas l'exercice physique bon pour tous au point de vue de l'hygiène à condition d'être sage et modéré. Le sport est le plaisir des forts ou de ceux qui veulent le devenir physiquement et moralement. Il comporte donc la violence, l'excès, l'imprudence dans son essence. Je continue. Il y a encore, et sans doute il y aura toujours, des puissants et des faibles, des triomphateurs et des lutteurs. L'inégalité est plus qu'une loi, c'est un fait. Que l'inégalité soit une loi de la nature, personne n'y saurait raisonnablement contredire. La société est hiérarchisée et la hiérarchie paraît être dans son essence. Les découvertes de la science nous ont révélé que tout ce qui vit obéit à cette même loi de la guerre, d'où découle fatalement la loi d'inégalité. La guerre, en effet, crée des vainqueurs et des vaincus, et la postérité du vainqueur bénéficie de l'héritage de la victoire, de même que l'héritage de la défaite pèse sur la postérité du vaincu. Principe inéluctable contre lequel il serait enfantin de perdre son temps à disputer, nous touchons là une des assises inébranlables de l'humanité. Je poursuis encore. La propriété. Il faut que le prolétariat en accepte le maintien. Hors de là, point de salut. C'est de nos jours l'alpha et l'oméga de toute paix sociale. La propriété n'est pas un dogme, c'est une nécessité. Dès le premier jour, j'étais un colonial fanatique. C'est quand même une phrase assez énorme. La théorie de l'égalité des droits pour toutes les races humaines conduit à une ligne politique contraire à tout progrès colonial. La race supérieure a parfaitement raison de refuser à la race inférieure certains privilèges de la vie civilisée. Et une petite citation sur la Commune, qui est, dont on célèbre cette année les 145 ans. L'Assemblée allait entrer dans le vif de son œuvre. Lorsque l'insurrection communiste éclata à Paris, elle comblait la mesure de nos infortunes. Les orgies et bouffonneries de la Commune, le massacre des derniers jours et cette fin immonde et bestiale dans le sang et le pétrole passèrent sur la France comme un cauchemar. L'armée remplit sans hésitation sa pénible mission. Que c'est bien dit. Je continue. Les Juifs sont demeurés profondément asiatiques. On ne les connaît guère qu'à travers les capitaux amassés par certains d'entre eux. Âpres et persévérants au gain, habiles et rusés dans leurs affaires, ils se sont souvent rendus odieux. Et cet antisémitisme de Coubertin explique aussi le fait qu'il était évidemment un grand supporter des Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Je cite « L'idée olympique sacrifiée à la propagande, c'est entièrement faux. » La grandiose réussite des Jeux de Berlin a magnifiquement servi l'idéal olympique. Et un journaliste rapportant une interview avec Pierre de Coubertin, André Lang, rapporte, résume sa conversation ainsi. Coubertin félicite hautement M. Hitler, en qui il salue un des plus grands esprits constructeurs de ce temps, d'avoir su éviter le danger et d'avoir magnifiquement servi, sans le défigurer, l'idéal olympique. Et dernière citation de Coubertin, les Jeux Olympiques de 1936 ont été, très exactement, ce que j'ai souhaité qu'ils fussent. Donc on voit qu'on a affaire quand même à un personnage assez particulier, loin du Coubertin humaniste, etc. etc. Est-ce que tu peux compléter, t'as fait une biographie assez complète de Coubertin, la seule vraie biographie critique dans le mythe olympique. Est-ce que tu peux nous...
Ben, Coubertin était quand même quelqu'un qui, sous la Troisième République, était impressionné par l'éducation anglaise, donc, et l'impérialisme anglais. Il disait, les Anglais ont réussi à coloniser le monde, à dominer le monde, à exporter leurs marchandises à travers leurs navires et éventuellement leurs missionnaires, grâce à la jeunesse que Coubertin voulait rebronzer la jeunesse, être fort pour être utile, voilà. Et donc, le modèle anglais, le modèle de la compétition physique anglaise était un de ces modèles, bon. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, Coubertin était un homme de son temps. La Troisième République était coloniale. L'Empire colonial français, le merveilleux Empire colonial français, au Tonkin, en Algérie, Coubertin défendait ça comme tous les autres.
Comme tous les républicains.
Comme tous les républicains, ou à peu près. Bon. Coubertin était effectivement, voulait résoudre ce qu'il appelait la question sociale. Pour lui, la question sociale, c'était l'antagonisme de classe entre le prolétariat et la bourgeoisie. Et il pensait que le sport pouvait être effectivement un moyen de résoudre cette question sociale, d'une part en évitant aux ouvriers de boire dans les bistrots, donc il était contre l'alcoolisme, contre la précocité sexuelle, donc il y a des phrases très fortes là-dessus de Coubertin, c'est un puritain absolument réactionnaire. Bon, tu as cité aussi des phrases sur l'antisémitisme. Coubertin, évidemment, comme beaucoup de bourgeois de son époque, était, disons, contre les juifs, était contre Dreyfus. Et dernier point, Coubertin effectivement était pour faire du sport une préparation militaire. C'est très, très clair. C'est une préparation à la guerre. Bon. Et en même temps, voulant résoudre la question sociale, ce qu'il appelle la question sociale, dont pour lui, la commune était vraiment un traumatisme pour la bourgeoisie française. La commune, c'était vraiment un coup de tonnerre. Hein, c'était effectivement le sport. Et Coubertin a des formules très fortes, c'est-à-dire que la bourgeoisie, que la jeunesse prolétarienne et la jeunesse bourgeoise s'abreuvent aux mêmes sources de joie musculaire. Et à partir du moment où tu es dans le même stade, l'habit de classe disparaît. Sous l'uniforme, tu n'es plus qu'un sportif. Et ça, c'est la grande idée de Coubertin. Effectivement, faire du sport un moyen de neutralisation politique, de contrôle social, d'embrigadement de la jeunesse révoltée. Donc, et de calmer les ardeurs révolutionnaires. Voilà. Ça, c'est quand même une grande idée de Coubertin.
Et c'est d'ailleurs une grande idée.
C'est l'idée de la bourgeoisie aujourd'hui.
Et c'est l'idée aussi du fascisme, évidemment.
Et de la social-démocratie.
C'est la réconciliation des classes, voilà, à travers.
Collaboration de classe.
La collaboration de classe, voilà, à travers le sport, qui en plus, Coubertin le dit, prépare presque à l'usine aussi, en donnant des habitudes de discipline, d'effort, de persévérance, d'obéissance, etc. Il prépare évidemment à l'armée. Il naturalise les hiérarchies et les inégalités, notamment l'inégalité de genre, évidemment. Les femmes, pas d'Olympiade femelle. Les femmes.
Elles sont là pour couronner le vainqueur, disait-il.
C'est ça, elles sont là pour couronner le vainqueur et pour rester à la maison. Et voilà, effectivement. En plus, ce que tu fais dans le mythe olympique, c'est une biographie qui est pas une biographie rapide avec quelques citations dénonciatrices. Il y a quand même un vrai travail de fond d'archives où, en fait, tu montres finalement que Coubertin est pas tellement une espèce d'ovni dont on aurait découvert les cahiers noirs, mais en fait un homme représentatif de la bourgeoisie de son temps. En fait.
Tout à fait. D'une certaine manière, le plus conscient. C'est conscient effectivement des enjeux de classe pour maintenir la domination de la bourgeoisie. Et surtout, une vision mondiale, à savoir de la place de la France, de l'Empire français dans le monde. Et ça suppose, dit Coubertin, que nous sachions coloniser intelligemment. D'ailleurs, il avait fait un texte, je ne me souviens plus lequel, 1910 peut-être, le sport et la colonisation. Et il termine, il faut donner aux indigènes le sens du sport, mais attention, pas n'importe comment, il ne faut pas qu'on puisse les aider à se révolter. Et ce qui est important, c'est qu'ils s'amusent. Ils s'amusent. Donc c'est le sport, pour Coubertin, est aussi une manière de diversion, de distraction pour les...
Oui, du pain et des jeux, quoi.
Donc c'est quelqu'un... Moi, d'une certaine manière, j'admire cette lucidité bourgeoise. Il savait parfaitement défendre des intérêts de classe, sur le fond.
Oui, quoi. C'était assez cynique, en fait.
Tout à fait cynique, voilà.
Et ce qui, évidemment, n'est pas du tout le portrait qu'on nous a dressé derrière sur le grand humaniste, désargenté, désintéressé. Effectivement, il n'était pas très...
À la fin de sa vie, il est ruiné, c'est sûr. Voilà. Les Allemands, les Hitlériens, lui ont filé du fric, hein, comme ouais. Il faut savoir. Donc ça, je documente ça aussi dans mon ouvrage sur Berlin 36. Les Allemands, Karl Diem, qui était l'organisateur, nazi mondain, qui était l'organisateur des Jeux de Berlin, était ami avec Coubertin. Coubertin traitait Karl Diem de mon génial ami. C'est un nazi, quand même, qui a organisé les Jeux de Berlin. Bon. Et Karl Diem a tout fait, et d'autres, effectivement, pour que l'État national-socialiste aide Coubertin, qui était effectivement ruiné. Bon. Il est mort, quand même, dans la dèche, ce type.
Oui, mais effectivement, après avoir accompli une grande œuvre idéologique en faveur du capitalisme et de la
bourgeoisie. Et qui lui a survécu, comme c'est quand même.
Et qui lui a survécu. Il a fait une œuvre assez pérenne, quoi. Même le CIO, quasiment tel quel, a survécu, quoi. Voilà. Et du coup, effectivement, Coubertin est évidemment, rebronzer la race. Les Jeux Olympiques, c'est aussi l'occasion de, disons, d'affirmer la nation, les valeurs nationalistes, etc. Ce qui fait que, évidemment, Coubertin, en 1914, appelle comme toute la bourgeoisie, la fleur au fusil, les jeunes de France à aller se faire massacrer par les Allemands en Belgique.
Les Boches,
voilà, c'est ça. là-dessus, rien de... c'est vraiment un homme de son temps, et du coup, c'est là où la biographie de Coubertin est encore non seulement démonte hein, le mythe de l'olympisme et démute aussi le mythe de Coubertin, mais aussi montre un peu ce que pensait la bourgeoisie de l'époque.
J'ajoute un point sur les Jeux de Berlin, c'est d'autant plus gênant parce que là, les documents que j'ai donnés, et notamment j'ai traduit ces documents allemands, parce que Coubertin, quand même, les Allemands ont fait beaucoup de travail, les historiens sérieux allemands, sur le rôle de Coubertin. Le fait que Coubertin ait légitimé les Jeux de Berlin, c'était aussi une légitimation de l'hitlérisme. Coubertin, tu l'as dit, admirait énormément Hitler, qui prétendait voulait la paix, il voulait construire, etc. Parce que Hitler savait très bien que le poids de Coubertin était tel que si la France avait boycotté, la France du Front Populaire, quand même, avait boycotté les Jeux de Berlin, effectivement, c'était un échec pour Hitler. Donc Hitler a réussi à maintenir, disons, la collaboration de la France et d'autres démocraties d'ailleurs occidentales à son entreprise de Berlin. La délégation française à Berlin défile le bras tendu, on l'a dit peut-être la dernière fois, devant la loge du Führer. Il se trouve que le salut olympique était le salut romain ou le salut bras tendu, que les Allemands évidemment ont tous et tous interprété comme le salut hitlérien. Donc tu peux t'imaginer 100 000 Allemands nazis qui hurlent Heil Hitler en disant que la France, notre ennemi juré, défile, parade, devant César, bras tendu. C'est quand même, voilà. Ouais. Donc Coubertin a eu un rôle très ambigu là-dessus. Parce que je pense que comme toute la bourgeoisie française était profondément admirative du redressement, entre guillemets, opéré par Hitler de l'Allemagne. Effectivement, la puissance allemande, l'armée allemande, les succès allemands, et l'Allemagne, effectivement, était des succès sportifs considérables. La reconstruction allemande est passée aussi par la reconstruction du sport allemand. Tout le monde faisait du sport, et du sport militarisé, dans les jeunes hitlériennes, dans l'association de sport et loisirs, etc. Bon. Kraft durch Freude, la force par la joie. C'était une organisation de masse allemande hein, qui organisait les jeunes filles et les jeunes gens une sorte de service militaire ou de service civique bon, avant la leur. Ça, c'était toute la bourgeoisie française, une grande partie de la bourgeoisie française admirait cela. Et même la social-démocratie du Front Populaire, effectivement, s'est laissée entraîner là-dedans. Bon. À savoir, effectivement, une jeunesse saine dans un corps sain. Bon. Et toute l'ambiguïté du sport est là. C'est quoi un corps sain? C'est quoi une jeunesse saine, voilà.
Oui, embrigadée, disciplinée, aux ordres.
Travailleuse.
Travailleuse, voilà, qui est capable de bosser.
Pas débauchée.
Voilà, etc., etc. Effectivement, on arrive dans notre histoire des Jeux Olympiques au JO de 36. Pour en avoir un petit aperçu, évidemment, lire ton livre qui a été republié aux éditions André Versailles en 2008.
Ouais.
Et puis regardez le film de Leni
Riefenstahl
qui est assez éloquent sur voilà la valorisation l'esthétisation du corps viril fasciste
à rien
voilà évidemment à rien puisque évidemment toutes les équipes avaient été purgées de leurs juifs d'ailleurs ça n'avait pas trop posé de problème
non, personne.
À la République du Front Populaire
non.
Comme ça lui avait pas posé de problème effectivement que en même temps que enfin oui, effectivement, que les Jeux Olympiques, ils se déroulent en juillet 1936. En août 1936. Donc, c'est une période où l'Allemagne intervient déjà et déjà en guerre, aide Franco à massacrer les libertaires et toute l'Espagne non fasciste, quoi. Et donc, effectivement.
Surtout que l'Allemagne avait envahi la Rhénanie aussi.
Avait envahi, remilitarisé la Rhénanie.
Voilà. C'est un acte de guerre contre le traité de Versailles et les puissances occidentales, l'Angleterre et la France, n'ont pas bougé.
Ouais.
Donc c'était la même chose en 38 d'ailleurs. Monsieur Hitler veut la paix. Donc si Monsieur Hitler veut la paix, eh bien qu'il la fasse évidemment.
Oui. Hitler voulait la paix aussi en bombardant en Espagne, etc., etc. Et donc du coup ces Jeux Olympiques de 1936, bon ils sont attribués par le CIO avant l'arrivée au pouvoir d'Hitler, mais déjà dans une Allemagne qui est en état d'urgence permanent depuis 1930, c'est l'état d'urgence permanent lié à la crise économique et puis évidemment à l'agitation sociale.
La fin de la République de Weimar, surtout, c'est
la fin de la République de Weimar. Donc Hitler prend le pouvoir en 1933, pas de problème, le CIO décide de poursuivre. Et du coup, comment vont se dérouler ces Jeux Olympiques? La campagne de boycott ne va pas marcher parce que Coubertin met tout son poids et parce que après toutes les démocraties bourgeoises de toute façon s'inclinent sur le plan diplomatique, donc elles le font aussi sur le sport. Comment est-ce que ça va se dérouler et en quoi est-ce que les Jeux Olympiques vont être un tremplin énorme pour l'idéologie nazie et pour l'unification allemande derrière Hitler, etc.
Bah, déjà, l'échec du boycott est lié aussi au fait que les forces, notamment en Europe, les forces militantes du boycott avaient une bannière qui était fausse pour la défense de l'idéal olympique. C'est exactement la même chose que défendait Hitler. Tu peux pas te différencier. Aussi bien les Hitlériens que ceux qui étaient pour le boycott des Jeux de Berlin se réclamaient de l'idéal olympique, que Hitler, soi-disant, défigurait. Bon, donc les uns défendaient l'idéal olympique nazi, les autres défendaient l'idéal olympique, soi-disant, défiguré. Donc ça crée la confusion. Voilà, tout à fait. Et ça, c'est le premier point. Deuxièmement, le comité international olympique a été manœuvré par le comité allemand, par les Allemands, bon, par Coubertin aussi, et par une partie du comité olympique américain, Cheryl Brundage, qui évidemment voulait absolument, qui était pro-nazi, voulait absolument que le mouvement olympique, le mouvement américain, sportif américain, se rende en Allemagne. Bon, cet échec-là a signé le glas d'une possibilité, disons, de contredire cette opération de propagande faramineuse, colossale. C'était vraiment le premier Jeux Olympiques organisé comme une espèce d'opéra wagnérien. C'était colossal, parfaitement millimétré. Toutes les forces de sécurité, les jeunesses hitlériennes, les chemises brunes, la SS, l'armée, les services secrets, la Gestapo, etc., encadraient 100 000 Allemands dans les stades et autour des stades, qui a été nettoyé évidemment de tout ce que tu peux imaginer, parce qu'auparavant, les communistes, les juifs, les socialistes, les sociodémocrates, les syndicalistes avaient été, disons, mis en tôle ou déjà enfermés, notamment au camp de près de Munich, ça me reviendra. Bon. Et donc, les puissances occidentales, tous ceux qui sont rendus, notamment les délégations françaises, sont rendus à Berlin, la fleur au fusil, Berlin n'était pas voisé de l'emblème olympique et en même temps des croix gammées partout. Donc c'était effectivement une espèce de nazification, ou comme le disait un antifasciste allemand, Mann, les jeux des gladiateurs de Hitler. Bon. Toute la cérémonie d'ouverture, toute la cérémonie de fermeture, etc., ça a été effectivement une immense machine de propagande. Avec la musique, bon, bref, tu peux imaginer, les défilés, bon, des Heil Hitler dans tous les coins, le Horst Wessel Lied, qui est la petite chansonnette nazie préférée, et Deutschland über alles, l'Allemagne avant tout, bon, au-dessus de tout. Donc c'était difficile de ne pas voir effectivement que là, Hitler avait marqué une forme de légitimation aux yeux de l'opinion publique mondiale de son pouvoir. Alors qu'il était déjà en train des pogroms anti-juifs massifs s'étaient déjà déroulés, des arrestations massives d'opposants, de syndicalistes et de leaders politiques se faisaient, tout le monde le savait ça. Et la répression, disons, contre les juifs. Donc ça, c'est une tâche indélébile du comité international olympique d'avoir accepté ça.
Et des fédérations olympiques comités nationaux. Voilà. Effectivement.
Et tout de suite après la fin des Jeux Olympiques, t'as un congrès qui se passe à Nuremberg où Hitler dit nous le Drang nach Osten, on veut aller vers l'est, c'est-à-dire l'expansion vers l'est, hein, l'Ukraine, la Pologne, etc. Donc voilà, 36, 38, 39, 40, etc. Bon, ça va très vite, hein. C'est rien, voilà. Et notamment les gens, une partie de la bourgeoisie française, je cite aussi, étaient admiratifs devant la réussite, la grandiose réussite de Coubertin lui-même, la grande réussite de Hitler. Bon, grandiose pour qui? Pourquoi?
Oui, bien sûr. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette le fait que le sport soit la vitrine du nazisme ou du fascisme devait se poursuivre, puisque c'était le Japon qui devait organiser en 1940 les Jeux Olympiques, et en 1942 la Coupe du Monde devait avoir lieu encore une fois en Allemagne nazie, quoi.
Non, mais Coubertin voulait même faire construire à Nuremberg un stade de 500 000 places. Le stade de Berlin, c'est 100 000 places. Et il avait même pensé que les Olympiques seraient dorénavant organisés pour l'éternité en Allemagne.
Ah oui, d'accord.
Donc, voilà. C'est quand même... C'est que le côté mégalomaniaque du personnage ne s'arrêtait pas. Donc voilà.
Ouais, ouais, effectivement, il a fini désargenté, mais c'était un idéologue assez prolifique. Et du coup, ça nous amène... aux Jeux Olympiques des 50 dernières années. D'abord, il y a évidemment les Jeux Olympiques de 68 qui vont se dérouler sans accroc, alors que le régime mexicain a liquidé 300 étudiants 10 jours avant l'ouverture des Jeux. Je ne sais pas si tu as une précision à ajouter là-dessus.
Mais il faut savoir qu'en 68, ça se passait dans un monde qui sentait la poudre quand même. Hein. La lutte contre les États-Unis, la guerre du Vietnam, la révolte étudiante quasiment mondiale, en France, en Allemagne, en Italie, aux États-Unis, etc. Donc effectivement, il y avait un peu de nervosité dans l'air. Et comment dirais-je, et aussi le racisme, il ne faut pas oublier, les deux Noirs américains qui lèvent le poing, Smith et Carlos, qui se font pour protester contre le racisme anti-noir aux États-Unis, ils se font virer de l'équipe américaine, hein, et déchus de leur titre. Comme c'est aussi la lutte, disons, contre la ségrégation raciale, ça joue là aussi.
Oui, oui, on a beaucoup pavoisé sur 1936 et tout ça, mais on a oublié ça aussi.
Voilà, voilà. Et d'ailleurs, les Allemands avaient traité, Jesse Owens, d'auxiliaire africain de l'équipe américaine. Donc ils avaient un profond mépris des nègres, ça c'est clair. Les Américains, les Allemands considéraient effectivement tout ça, c'est des Untermenschen, des sous-hommes. Oui. Bon, ils ne comprenaient même pas que les États-Unis, que les États-Unis blancs puissent avoir effectivement ce qu'ils appelaient des auxiliaires. Bon. Et donc, cette espèce de racisme qui était propre à l'Allemagne, ça a été joué aussi en Italie, et tout le mouvement olympique a mis un certain temps pour accepter...
Et aux États-Unis.
Et aux États-Unis, bien sûr, pour accepter effectivement qu'il n'y ait pas de ségrégation raciste ou raciale. Voilà.
Oui, oui. Alors, dans un autre contexte, il y a évidemment les JO de 1980 à Moscou. Alors effectivement, certains anti-impérialistes aujourd'hui pourraient nous dire le boycott, voilà, c'est les États-Unis qui ont mené le boycott, et donc finalement ça faisait partie de la guerre froide que de boycotter les Jeux Olympiques de Moscou. N'empêche que les délégations qui sont allées, notamment celle de la France, ont participé à une gigantesque opération de propagande du capitalisme d'État bureaucratique soviétique.
Tout à fait, Brejnev, Kosygin... Comme s'appelle le troisième, KGB, Kosygin, Brejnev, bref. La bande de bureaucrates qui étaient au pouvoir avait fait des Jeux de Moscou une pure opération de propagande et de liquidation de tous les dissidents et de la dissidence de gauche. Je pense notamment à des gens comme Leonid Pliouch, qui est mort il y a un an exactement, mathématicien, marxiste, qui est resté marxiste d'ailleurs, et qui dénonçait précisément la dictature bureaucratique du parti. Bon, donc dénonçait également la prison des peuples et le boycott que nous on a mené. Moi, je faisais partie d'un des principaux dirigeants de ce mouvement-là. Hein. Le boycott qu'on a mené en 80, c'était pas du côté de l'impérialisme américain. C'était au nom de la solidarité avec les peuples opprimés de l'empire soviétique, au nom de la lutte contre l'antisémitisme d'État massif en Allemagne. En Union soviétique, et aussi le fait que l'Union soviétique venait d'envahir l'Afghanistan et mettait à feu et à sang, à coups de napalm, la guerre en Afghanistan. Donc le principe, c'était un pays qui organise les Jeux olympiques ne peut pas faire la guerre. C'est antinomique. Bon. Donc là aussi, le comité olympique a été complètement complice, a accepté effectivement, avec les conséquences que l'on voit aujourd'hui sur l'Afghanistan. Quand même. Parce que les Russes n'ont pas fait de détails là-bas, à coups d'hélicoptères, etc. Hein. C'est bon.
D'ailleurs, ça me rappelle que j'ai oublié de préciser qu'en 68, justement, les étudiants, c'était un hélicoptère qui avait arrosé toute la place à coups de mitrailleuse.
C'est plus facile.
Voilà, c'est plus facile.
De même, il ne faut pas oublier aussi que les Chinois ont liquidé sur la place de Tiananmen la contestation étudiante. Hein. Ouais. C'était un peu avant...
En 89, oui.
89, voilà. Ouais.
Et après, parce que évidemment, il ne s'agit pas dans cette émission de n'énoncer que les Jeux Olympiques fascistes, etc., etc. Pour prendre un exemple d'un Jeux Olympiques, des Jeux Olympiques du capitalisme occidental, etc., etc. Prenons ceux de 1984 qui marquent un tournant dans l'olympisme, puisque ils font passer les Jeux Olympiques à une vitesse supérieure en termes économiques, c'est-à-dire idéologiquement.
C'est le jeu de Coca-Cola. C'est les jeux de Coca-Cola.
C'est ça, c'est les jeux de Coca-Cola. Et du coup, même si c'était déjà une institution qui, idéologiquement, avait une place très importante, et je pense que les Jeux Olympiques restent quand même avant tout un phénomène idéologique, ça devient quand même un phénomène capitaliste économique très important à partir de 1984. Tu pourrais en parler un petit peu, les Jeux de Los Angeles ?
Ouais, Los Angeles, déjà, il faut savoir que Los Angeles avait déjà organisé les Jeux de 1932. Et que les Allemands avaient été surpris par la propagande pro-capitaliste américaine qui avait fait pour les Jeux de 1932 une espèce de publicité massive pour le tourisme aux États-Unis et pour l'American Way of Life. Les États-Unis sortaient comme d'autres de la grande crise, hein. Donc effectivement, c'était aussi une manière de relancer la machine. Bon. Et donc en 84, mais en 88, et tous les jeux qui suivent, effectivement, c'est là, on voit vraiment à quel point l'olympisme sert de relance économique.
Hein, au capitalisme en
crise. Au capitalisme, effectivement, pour les grands groupes, pour les grands groupes financiers notamment. Donc tu n'as qu'à prendre la liste des sponsors et des annonceurs officiels ou des partenaires officiels, c'est intéressant. Hein. Ça, c'est vraiment le capital du CAC 40, d'une certaine manière.
Et du coup, effectivement, à partir de ce moment-là, les Jeux Olympiques servent non seulement de tribune idéologique à différentes formes d'État capitaliste, mais également, évidemment, de propagande massive pour les entreprises capitalistes, principalement pour les grandes entreprises capitalistes, évidemment, celles qui ont les moyens, etc., etc. Et effectivement, c'est là où 84 est effectivement un tournant, même si évidemment, il faudrait pas, contrairement à certaines critiques tronquées des Jeux Olympiques, penser toujours le football ou les Jeux Olympiques. Avant, c'était populaire et c'est l'argent qui a tout corrompu. Voilà. Alors que le phénomène...
Depuis le début. Mais tu vas quand même revenir en arrière. En 60, les Jeux de Rome. En 64, les Jeux de Tokyo. En 56, les Jeux de Melbourne. Tout ça, c'est déjà effectivement des Jeux totalement capitalistes dans le cadre des contradictions intercapitalistes, mais aussi dans le cadre de la guerre froide. Il faut quand même plus jamais oublier ça. Hein. C'est le camp occidental contre le bloc soviétique. Et donc, effectivement, c'est une forme de capitalisme libéral contre le capitalisme bureaucratique d'État. Donc, c'est pour l'appropriation des parts de marché, pour la domination, effectivement, et pour la conquête sur le tiers-monde. Parce que l'enjeu de l'olympisme, c'est aussi le tiers-monde, c'est-à-dire les peuples nouvellement indépendants, etc., qui accèdent aux Olympiques. Hein, aussi bien l'Union soviétique essaie de mettre la main dessus, le grappin sur ces pays-là, et aussi bien que l'impérialisme américain. C'était un enjeu, le contrôle effectivement du tiers-monde. Hein.
Oui, bien sûr. Et effectivement, il y a des enjeux. C'est-à-dire, c'est là où il faut comprendre le capitalisme comme un phénomène social total, pas simplement comme l'économie, l'argent, le travail marchandise, la marchandise, le capital, mais aussi comme tout ce qui permet effectivement l'économie, et notamment c'est l'État,
c'est un univers globalisé.
C'est un univers globalisé, quoi. Mmh. Et du coup, on arrive. On pourrait faire deux derniers Jeux Olympiques, ceux de 2008 en Chine, qui ont été le triomphe du capitalisme chinois.
Capitalisme d'État bureaucratique et militaire et dictature. C'est un État totalitaire, la Chine en 2008. Hein. Donc, effectivement, ça ne bronche pas. C'est l'idéal du capitalisme aujourd'hui, c'est le capitalisme chinois. C'est-à-dire effectivement un marché avec des oligarchies. Extrêmement puissant, des milliardaires. Le nombre de milliardaires chinois en ce moment explose avec un appareil d'État féroce. Voilà. C'est ça, aujourd'hui, le modèle qui tente à prévaloir de plus en plus ce que Poutine appelle la verticale du pouvoir. Bon. Et là, c'est la verticale du parti, un parti unique, qui liquide toute dissidence et toute forme de contestation des peuples sous la domination impériale de l'Empire du Milieu.
Et toute forme de contestation sociale, évidemment.
Ah, évidemment. Évidemment.
Et donc, ouais, effectivement, c'est intéressant de voir. Il y a un dirigeant sportif, il me semble que c'était le numéro 2 de la FIFA, qui disait justement que la Chine c'était un modèle finalement.
Parce qu'il n'y a pas trop de démocratie.
C'est ça, voilà. C'était un modèle de gestion. Et du coup, effectivement, les Jeux Olympiques de 2008 ont été. Enfin, c'est aussi comme les JO de Sochi de 2012, les JO d'hiver, auxquels on fera. Au prochain des JO d'hiver, on fera une émission spécialement consacrée aux JO d'hiver. C'est aussi. C'est aussi un instrument politique pour consacrer un régime, le régime nazi, le régime capitaliste néolibéral en 1984, etc. etc. Et du coup, peut-être pour finir cette émission, qu'est-ce que tu pourrais dire, même si on va y revenir la semaine prochaine, sur les Jeux avec Gabriel Zacharias, sur les Jeux Olympiques qui s'annoncent là en 2016.
Les Jeux de Rio au Brésil, c'est l'exemple même effectivement de développement suprême, du développement du capitalisme au stade suprême du capitalisme, comme disait quelqu'un. Bon, Ulianov. C'est-à-dire, effectivement, l'emprise totale du Comité international olympique sur un gouvernement corrompu du haut en bas jusqu'à l'os, un peuple, un pays ravagé par la corruption, par la pauvreté, par les misères, et qui se révolte. D'ailleurs, le gouvernement brésilien a été obligé, pour tenir les normes et les délais, de déclarer l'état d'urgence, comment on appelle ça ?
L'état martial ?
Non, l'état sur le plan financier. L'état d'urgence financière. Donc, finalement, ils n'ont plus de sous. Donc, qui va payer ?
Hein ?
Qui va payer ? C'est le peuple, comme d'habitude. Donc, voilà. Et donc, là, les jeux de Rio, comme d'autres jeux auparavant, c'est effectivement une dévastation de l'environnement, par exemple les favelas, la mise en ordre urbaine, l'emprise sécuritaire, pour éviter, parce que c'est comme il y a pas mal de violence au Brésil, pour essayer un minimum d'attirer les touristes qui sont quand même effrayés par l'histoire des moustiques. D'une certaine manière, les moustiques, ce sont les alliés naturels du boycott, parce que comme l'aspect sanitaire au Brésil n'est pas brillant. Donc, tout ce pays, effectivement, qui pouvait développer des capacités, sont pompés par l'Olympisme et auparavant par le football. Le championnat du monde de football au Brésil a été énormément contesté. Il y a eu des millions de gens dans la rue. Hein, en disant effectivement, on n'a pas besoin de gaspiller le fric pour le football ou pour l'Olympisme, alors que les services publics, l'éducation, la santé, les transports, les logements sont en déshérence totale. Donc c'est ça la question aujourd'hui. L'Olympisme aujourd'hui, c'est une pieuvre parasitaire. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut comprendre et qu'on verra aussi en France. Si par malheur la France obtient les Jeux en 2024, d'ailleurs j'annonce ici qu'il y aura un boycott, un mouvement de boycott, et j'espère que nos amis libertaires y participeront sérieusement, bon, à savoir que Paris effectivement sera mis sous coupe réglée des grandes institutions olympiques, des grandes institutions bancaires, de l'Union Européenne éventuellement, et des partenaires officiels.
Et notamment les quartiers populaires.
Et les quartiers populaires.
Les Courneuves, voilà. Et tout ça.
Voilà. Donc, on va aménager ça, comme ça a été fait en Espagne en 92 aussi. Hein. Donc, on rase les quartiers, ce qui a été fait à Pékin aussi. On rase les quartiers traditionnels pour mettre effectivement une construction immobilière qui permet effectivement de faire des bénéfices colossaux. Voilà.
Ouais, bien sûr. Bah, on va finir du coup cette émission sur les Jeux Olympiques là-dessus, sur effectivement la nécessité de non seulement de s'opposer du plus généralement au capitalisme, mais aussi à l'institution sportive et à l'institution que sont les Jeux Olympiques, puisqu'ils font partie, au travers évidemment d'autres phénomènes, comme la police, etc., etc., disons, des structures fondamentales du capitalisme.
Des appareils idéologiques et répressifs de l'État.
Voilà, et de l'État et du capital mondial, quoi.
Voilà, tout à fait.
Voilà, et ben donc, je te remercie Jean-Marie Brown.
C'est moi.
D'être venu pour cette émission sur les Jeux Olympiques, et on fera d'autres émissions avec Jean-Marie Brome à l'occasion d'autres événements sportifs, et on fera aussi en complément de cette émission une émission consacrée à la situation au Brésil en 2016, en lien notamment avec les Jeux Olympiques de 2016. Voilà, merci.
Au revoir.